Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, le thème de la prédication qui est en lien avec justement ce qu'on avons vu hier avec Patrick de Bernard sur justement les épreuves auxquelles nous sommes parfois soumis les uns les autres. Et justement, quels sont nos recours, nos outils, nos moyens pour les passer, les vaincre. Donc c'est un message que j'espère assez court, le plus condensé possible. Donc il s'intitule « Épreuve et espoir ». Alors en préambule, quelques définitions. C'est toujours bon de se rappeler ce que veut dire clairement les mots que nous utilisons. Qu'est-ce que l'adversité? Donc, selon le dictionnaire, la définition est la suivante. Sort contraire, circonstances malheureuses, deuil, revers de fortune, perte d'emploi, etc. S'imposant comme une épreuve à subir ou à surmonter. Donc, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas de notre fait à nous, qui est quelque chose qui vient plutôt de l'extérieur et qui nous tombe sur nous. Et donc, dans l'adversité, il y a l'épreuve. Donc, qu'est-ce que l'épreuve? Alors, au sens physique du terme, l'épreuve, c'est un essai par lequel on éprouve, c'est-à-dire qu'on teste, la résistance, la qualité de quelque chose. Donc, c'est intéressant de voir que l'épreuve en soi, et on utilise l'épreuve dans le domaine physique, on appelle, une fois ce qu'on appelle dans la physique l'étude des matériaux, et on utilise différents types de tests, pour étudier leur capacité à être comprimée ou à être étirée et plein d'autres choses comme ça, pour justement savoir jusqu'à quel point on peut aller. Parfois, justement, des matériaux ont ce qu'on appelle une élasticité, c'est-à-dire qu'on les déforme, mais si on lâche la contrainte, ils reviennent sur eux-mêmes. Mais parfois, si on va au-delà d'un certain point, eh bien, ils ne peuvent plus reprendre leur forme, ils restent déformés. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épreuve pour tester ce genre de choses. Alors, nous sommes tous les uns les autres soumis à l'adversité dans la vie courante. Je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous y échappe. Nous sommes soumis aux épreuves, et il faut reconnaître que quand ça nous arrive, ce n'est pas agréable. Le plus souvent, on souhaiterait ne pas avoir de soucis, ne pas avoir de problèmes. Et personne n'a envie de se porter volontaire pour vivre une période difficile. On est tous plus enclin à vouloir vivre une vie agréable, autant que possible, et souffrir le moins possible, que ce soit sur un plan moral ou physique, ni d'être dans la tristesse, ni d'être tout seul et sans soutien. À moins d'être masochiste, mais ce n'est pas un état normal de la personne. Et pourtant, que ce soit les personnes non converties comme les convertis, c'est-à-dire nous, qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous avons tous notre lot de souffrances et d'épreuves. Donc la question qui vient, c'est finalement quelle est la différence entre être chrétien, si ce statut ne nous permet pas d'échapper aux épreuves, mais au contraire de pouvoir comprendre pourquoi, bien que nous sommes repentis et convertis et marchant et essayant de marcher avec le Seigneur, pourquoi il nous arrive aussi, nous aussi, des épreuves. Donc d'où viennent-elles et quelles sont les catégories d'épreuves? Dans Jean 16, 33, donc l'évangile de Jean, Jésus dit: je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Donc, dans la Bible, le Seigneur nous avertit que, en dépit de croire en lui, ben, nous serons malgré tout soumis à des afflictions. Mais qu'on ne doit pas s'en attrister ni perdre courage. Au contraire, il faut prendre courage et prendre l'exemple sur Jésus-Christ, puisqu'il dit « J'ai vaincu le monde ». Alors, discernons les différentes origines des épreuves. Il y a celles que l'on subit, qui viennent de l'extérieur. Et puis, il y a celles où, malheureusement, parfois, nous en sommes nous-mêmes la cause, volontairement ou involontairement. Donc, celles que l'on subit, bah, ce sont notamment, comme pour tout le monde, les épreuves banales de la vie quotidienne, hein, auxquelles tout le monde est confronté, problèmes de santé. Thierry me commentait que cette semaine il s'est fait mal au tendon d'Achille. Deuil. Nous avons, nous, à titre personnel, perdu notre chien, que nous aimions beaucoup. Perte d'emploi. Patrick nous commentait hier une dame qui était, aussi, enfin, qui était croyante à Cahors et qui malheureusement a perdu son travail du jour au lendemain. Difficulté à boucler à la fin de mois. On peut être également objet ou victime de vol, d'accident également. Et, donc ça c'est sur le plan matériel on va dire, mais il y a également les épreuves spirituelles. Persécution à cause de l'évangile, ou à cause d'être tout simplement chrétien, parce que notre simple présence, et sachant que les autres, enfin, et les autres sachant qu'on est chrétien, ils ne sont pas convertis, ça cause un malaise, parce que il y a quelqu'un qui n'est pas comme les autres, et qui donne un témoignage qui met mal à l'aise, et les gens, dans leur conscience ou inconscience, savent qu'il y a quelque chose qui coince avec eux. La mission du chrétien, qui est d'évangéliser, et qui va, sans nul doute, dresser des oppositions, et opposition du diable, qui utilise bien sûr notamment les inconvertis pour faire du mal. L'exemple biblique, enfin les exemples, quelques-uns, ben, c'est Job, par exemple, où le diable lui tombe dessus à bras raccourcis, en détruisant sa famille, il perd tous ses enfants, il perd ses biens, il perd sa richesse, et il perd même sa santé. Et pourtant, c'était un homme qui, du point de vue de Dieu, était vraiment bien. Alors je ne le développe pas, je ne rentre pas jusqu'à la conclusion, mais on a des exemples de personnes chrétiennes qui sont attaquées et qui font l'objet d'épreuves. Joseph, le fils de Jacob, alors lui était victime de la jalousie de ses frères. Il a failli être abandonné et mourir de faim et de soif dans une citerne, mais au dernier moment, ses frères ont eu un problème de conscience et ils l'ont sorti pour finalement le vendre à des Amalécites qui passaient par là pour être finalement au final vendu à des Égyptiens. Et dans ces circonstances-là, Joseph aurait pu être très 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 découragé, mais on connaît tous l'histoire de Joseph et ce qu'il a fait justement pour sa famille et pour ses frères qui justement voulaient se débarrasser de lui. Dans les actes, on a des exemples, alors je ne vais pas tout lire, mais dans Pierre, acte chapitre 4, verset 1, acte également chapitre 5, verset 17, où au cours de témoignages, et après avoir fait notamment le miracle de redresser un paralytique devant la porte du temple, les apôtres sont capturés par les pharisiens et autres religieux pour leur demander de quel droit ils font ça, suivant quelle puissance. Ils sont même battus, outragés et même emprisonnés. Paul lui-même commente sur ce que lui-même a vécu en tant qu'apôtre et évangéliste. Dans Paul 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24, il cite quelques exemples d'épreuves qu'il a subies. « 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 40 coups de bâton. 5 fois. 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. » Lapidé, on sait ce que ça veut dire, mais se le représenter et le vivre, ce que ça doit être affreux. Des gens qui vous balancent des cailloux pour vous tuer, ça doit être vraiment horrible. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer profonde. C'est-à-dire que Paul était dans l'eau, dans la mer, froide. Il a passé une journée entière, une nuit entière, à surnager pour se sauver, pour rester en vie. J'ai été souvent en voyage, en danger sur les fleuves, en danger de la part des voleurs, en danger parmi ceux de ma nation, en danger parmi les gentils, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur les mers, parmi les faux frères, en danger dans les peines, les travaux, dans les fréquentes veilles, en danger de faim, de soif, souvent dans le jeûne, dans le froid et dans la nudité. Et chaque jour, sans parler des autres choses, je suis assiégé par les soucis de toutes les églises. » Lui, en tant que semeur, on va dire, d'église locale, il avait la préoccupation de savoir qu'allaient devenir ces églises-là. Est-ce que les frères ou on va dire, les anciens, les plus aguerris, les plus matures qui étaient restés sur place, est-ce qu'ils allaient bien pouvoir s'occuper de l'église locale, de bien pouvoir lui permettre de prendre son essor, de régler peut-être des problèmes doctrinaux, puisqu'on le voit souvent fois dans les épîtres, Paul doit reprendre certaines églises pour leur dérive ou leur comportement. Donc tout ceci était pour lui des sujets d'inquiétude et donc d'épreuve, puisque ça nuisait à sa tranquillité. Et il y a aussi donc des épreuves physiques ou spirituelles dont on est soi-même victime, mais par notre propre faute. Alors, des fois volontaire ou involontairement, parce qu'on n'est pas tout à fait conscient de ce qu'on fait et de, surtout des conséquences que ça peut avoir. Un exemple, parmi tant d'autres, dans la Bible, Jacob, qui se fait passer pour son frère Isaou, afin de recevoir la bénédiction de son père Isaac, puisque malheureusement, dans la famille, il y avait une division. Rebecca, l'épouse d'Isaac, préférait Jacob, et Isaac préférait Isaou, parce que celui-ci chassait et lui faisait notamment un repas avec de la viande de chasse, de gibier, et ça plaisait beaucoup à Isaac, et c'était une des raisons pour lesquelles il préférait Isaou. Et donc, quand Jacob usurpe la bénédiction que veut donner Isaac à Isaou, puisque Isaou c'est l'aîné, et c'est l'aîné qui recevait les bénédictions, une fois que le poteau rose est découvert, il s'enfuit, parce qu'il sait que son frère Isaou ne va pas être content, il va vouloir se venger, il va vouloir le tuer. Et donc là, c'est lui qui a agi sous l'impulsion de sa mère, mais il était conscient de ce qu'il faisait également. Également, dans la Bible, on voit Samson qui joue et qui se joue de la femme dont il est amoureux, Dalila, qui, celle-ci, par divers moyens, essaye de lui extorquer son secret sur sa grande force pour la divulguer aux Philistins, puisque les Philistins voulaient le réduire à néant. Donc là encore, il joue avec le feu jusqu'à finalement se laisser persuader et donc divulguer le secret que finalement était un secret qu'il avait lui avec le Seigneur. Et donc il devait rester dans cette intimité-là entre Samson et Dieu, et il le divulgue à cette femme. On voit également dans 1 Samuel, chapitre 13, versets 7 à 14, Saoul. On sait qu'à un moment donné, les Juifs ne voulaient plus être sous l'autorité directe de Dieu, et qu'ils voulaient se faire diriger par un roi, par un homme. Et donc, de guerre lasse, si je puis dire, Dieu accède à leur demande, et par l'intermédiaire de Samuel, il décide donc de choisir Saoul pour diriger le peuple juif. Et dans cette histoire, à un moment donné, les Juifs étaient souvent sous les attaques des Philistins. Et donc, Saoul doit engager une bataille importante contre les Philistins. Mais Samuel, au préalable, l'avertit qu'il doit attendre sa venue avant d'engager la bataille pour pouvoir offrir des holocaustes et des sacrifices de prospérité afin d'assurer la victoire aux Juifs. Samuel tarde plusieurs jours. Et le peuple juif, qui est sous l'angoisse et la pression de voir que ces Philistins vont les attaquer, font pression sur Saoul pour qu'il fasse tout de suite les holocaustes et les sacrifices pour engager la bataille. Et donc, ils veulent agir par eux-mêmes et ne pas se soumettre à l'attente de la venue de Samuel pour justement, en sa compagnie et sous sa direction, faire les sacrifices. Et finalement, donc, Saoul décide d'obéir à la pression des Juifs, il fait les sacrifices, et une fois qu'il vient juste de terminer les sacrifices, à ce moment-là, Samuel arrive et lui dit « Mais qu'as-tu fait? Pourquoi ne m'as-tu pas attendu ?» Donc il lui fait un très 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 grand reproche. Et donc, Saoul, on voit qu'il est dans une épreuve, il voudrait obéir à Dieu et obéir à Samuel, mais finalement, il se laisse davantage impressionner par le peuple, et il perd de vue Samuel et Dieu. Et il cède finalement à la pression. Un autre exemple qui est bien connu, c'est quand Pierre demande à Jésus-Christ de l'appeler hors de la barque pour venir vers lui en marchant sur l'eau. Donc Jésus dit à Pierre, viens vers moi. Donc Pierre descend de la barque qui est sur le lac, et il se met à marcher vers Jésus. Et puis peu à peu, il commence à s'enfoncer jusqu'à perdre pied. Et il lance un cri d'alarme à Jésus-Christ en disant « Jésus, Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus-Christ lui dira « Homme de petite foi !» Donc on voit qu'au travers de ces épreuves, la foi joue un grand rôle dans notre capacité à pouvoir les vivre et les surmonter. Alors, quels sont face à ces diverses épreuves, qu'elles soient matérielles, on va dire banales ou spirituelles, quelles sont nos solutions, quel est notre espoir? quels sont nos outils pour pouvoir les vivre du mieux possible et surtout les dépasser et surtout également quoi en retirer. Parce qu'une épreuve pour une épreuve, ça ne sert à rien. Même les gens qui font des tests de matériaux, ils ne font pas ça pour le plaisir de le faire. C'est parce que derrière, il y a un but, il y a un objectif. C'est de pouvoir qualifier des matériaux qu'on va après utiliser pour la construction d'un pont ou d'une œuvre d'art quelconque. Donc l'épreuve pour l'épreuve, ça n'a pas d'intérêt. Donc on peut en toute logique penser qu'en ce qui nous concerne, les épreuves que nous vivons, quelles qu'elles soient, ont un intérêt. La question, c'est de pouvoir découvrir, ou en tout cas essayer de voir quel est l'intérêt, et en tout cas garder l'espoir que les épreuves que l'on vit ne sont pas purement bêtes et méchantes, mais c'est parce qu'on va certainement pouvoir en tirer un bénéfice quelconque. Et donc pour cela, il est important déjà de soi-même de se faire une rétrospective et de pouvoir se souvenir des épreuves auxquelles on a déjà été confronté, et de se rappeler comment nous avons pu en sortir, et notamment avec l'aide du Seigneur. Parce que c'est un terrain sur lequel on peut s'appuyer justement et garder l'espoir. Alors, dans ce qui est des épreuves matérielles, à savoir le manger, le boire, le vêtir, etc., dans Matthieu, on a dans les premiers chapitres les conseils du Seigneur. Dans Matthieu 6, 25, alors je ne vous dis pas tous les versets, bien sûr, mais Jésus-Christ nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie. Donc ça concerne justement la vie quotidienne, à savoir le manger, le boire, l'habitation, l'éducation, la santé. Ce sont des choses où Jésus-Christ dit, votre Père sait que vous avez besoin de ces choses-là. Donc ne soyez en peine pour cela. Bien sûr, il ne s'agit pas d'attendre dans un fauteuil que tout tombe du ciel, parce que nous avons notre part à faire, on doit se mettre en mouvement. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas, qui sont de l'ordre de la bénédiction et du Seigneur. Mais nous avons notre part à faire, et de le faire en confiance. Matthieu 6, 33, Jésus-Christ dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous sont données par-dessus. » C'est-à-dire que, bien sûr, on a besoin de ces choses-là, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser. C'est sur notre marche avec le Seigneur, sur le royaume et sa justice. C'est-à-dire, on le verra après également, notre évolution de chrétien pour donner au Seigneur les bons fruits, les fruits spirituels qui sont notamment, je ne les dis pas tous, mais l'amour, la patience, la tempérance, la bonté, etc. Donc tout ceci, c'est des choses qui doivent nous préoccuper en premier lieu, et le reste est secondaire. Mais ça a son importance. Mais il ne faut pas inverser, si je puis dire, les priorités des choses. Jésus-Christ dit toujours dans dans le chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. » Donc on voit bien qu'il ne faut pas se laisser esclaviser par la contingence du quotidien. Donc ça, je dirais que c'est plutôt dans le domaine du matériel. Dans le domaine du spirituel, donc on constate que le Seigneur cherche à agrandir notre foi, à la fortifier, à nous faire bien sûr évoluer comme chrétiens, pour notamment donner des bons fruits, pour être un bon témoignage, toujours pour participer à la gloire du Seigneur, et toujours pour également porter un bon témoignage qui va interpeller des inconvertis qui eux-mêmes, peut-être petit à petit, vont pouvoir s'intéresser à Dieu et à chercher, à essayer de se poser des questions. On voit cette évolution spirituelle dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, avec Jacob. Quand Jacob passe devant Pharaon, qu'il est présenté par Joseph, puisque le Pharaon souhaite connaître le père de Joseph, puisque le Pharaon a dû voir quelle était la sagesse de Joseph dans tout ce qu'il a entrepris pour le compte de Pharaon en Égypte. Et il doit se dire, quelle est la famille de cet homme qui est si sage? D'où vient-il? Et donc Jacob passe devant le Pharaon, et il dit notamment dans le chapitre 47, verset 9, « Les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais, et n'ont point atteint les années de vie de mes pères. » C'est-à-dire que lui-même est conscient qu'il a mené une vie assez difficile, et que sa vie ne sera pas aussi longue que son père ou que Abraham. Et néanmoins, Jacob est reconnaissant, parce que malgré les épreuves, il reconnaît que le Seigneur, et en fait épreuve que lui-même s'est mis d'ailleurs, un petit peu par incrédulité, et parce que lui-même a décidé de dire « je vais y arriver par moi-même » depuis le début. Dans la Genèse chapitre 48, verset 11, Jacob dit à Joseph « Je ne croyais plus voir ton visage, et voici Dieu m'a fait voir même ta postérité. » Jusqu'à ce moment-là, Joseph présente Manassé et Éphraïm à son père, qui sont les deux enfants qu'il a eus, on va dire, entre guillemets, en captivité en Égypte, avec une femme égyptienne. Et donc, il les présente à son père pour que celui-ci, justement, bénisse, et notamment bénisse l'aîné. Et dans Hébreux, chapitre 11, verset 21, il est rapporté à propos de ce passage, quand Joseph présente ses enfants à Jacob pour être béni, il est écrit, en parlant de Jacob, « Et il adora appuyer sur son bâton. » C'est-à-dire que finalement, le point final de la vie de Jacob, c'est de se livrer complètement, on va dire, cœur, corps et âme à Dieu, dans une foi totale, puisqu'il se met à adorer l'Éternel. Et donc on voit là, si je puis dire, la finalité de toutes ces épreuves qu'il a vécues, et dont lui-même a été la cause, par des mauvais choix. Et on voit que donc Jacob est conscient de tout ça, puisqu'il dit toujours dans le chapitre 48, verset 15, que le Dieu qui a été mon berger depuis que j'existe, jusqu'à ce que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, en parlant donc des enfants de Joseph. Donc on voit bien que Dieu ne souhaitait pas que Jacob mette une vie si tumultueuse, faite de peur, de fuite et d'obstination de la part de Jacob, et que malgré ce contexte très difficile, Dieu a utilisé ses épreuves pour le bien de Jacob et pour le peuple juif naissant, puisque la famille de Jacob va donner donc les 12 tribus d'Israël. Et on voit donc que malgré tout, Dieu, dans son immense intelligence et sagesse, utilise nos erreurs, utilise même le mal pour tourner les choses à l'avantage du bien. Donc, au travers du témoignage de la vie de Jacob, on voit que soit, dans une épreuve donnée, on regarde vers soi, on se replie vers soi, et donc on risque de tomber dans la complainte, dans la tristesse, la peur, la crainte. Et compte tenu de notre faible intelligence et sagesse, il est peu probable qu'on trouve une solution adéquate à la situation que l'on vit. Comme ce fut le cas d'ailleurs pour Saoul. Ou soit, et c'est pas toujours facile, il faut le reconnaître, parce qu'on peut avoir tendance à être enseveli, prisonnier de ce que l'on vit, soit on regarde à Jésus-Christ, et on fixe à lui notre espérance, et on s'attend à lui, et c'est pas facile, puisque parfois on doit attendre, dans une situation donnée, peut-être des semaines, des mois, des années, comme c'était le cas d'ailleurs pour Jacob. Il a vécu de nombreuses années dans ses difficultés, jusqu'à obtenir la délivrance finale. Et nous savons tous que l'un des meilleurs exemples de personnes ayant vécu des épreuves, c'est Jésus-Christ lui-même, parce que nous savons tous qu'il a connu toutes les tentations et toutes les épreuves qu'un être humain peut connaître. Et je dirais que ces tentations-là atteignent leur point d'orgue dans le jardin de Gethsémané, à un moment donné, devant la crainte, la peur de ce qu'il doit affronter, il lui viennent des grumeaux de sang qui sortent de son front, qui perlent avec la sueur. C'est-à-dire que le sang sort des veines et va à l'extérieur et perle avec la sueur. Et il demande à son père si cette coupe qu'il doit boire peut passer loin de lui. Et il s'accroche dans la prière pour finalement retrouver la sérénité et continuer à faire ce que son père lui a demandé de faire. Donc, et au-delà de ça, il est mort et il est ressuscité. Et il est vivant et assis à la droite de notre Père. Donc, c'est la personne tout indiquée vers qui nous pouvons regarder et sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour traverser nos épreuves. Pierre nous donne ses conseils dans 1er Épître de Pierre, au chapitre 1, verset 7. « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. » Toujours au 1er Épître de Pierre, au chapitre 2, verset 20. « Mais si vous supportez patiemment la souffrance pour avoir bien fait, » donc là, c'est quand on est persécuté pour l'Évangile, pour le témoignage, « c'est à cela que Dieu prend plaisir. » Conclusion. Et on peut prendre en guise de conclusion Romains chapitre 8, que nous avons lu hier avec Patrick. Alors, vous connaissez ces versets, bien sûr, mais il est toujours bon de se les rappeler. Chapitre 8, verset 28. Or, nous savons aussi que toutes choses concourent, donc les bonnes comme les mauvaises, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, il n'est pas écrit au bien de ceux qui n'aiment pas Dieu, non, c'est au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la condition pour que toutes choses concourent au bien. Il faut aimer Dieu pour que les choses concourent au bien, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, sur le moment, on peut se dire, mais moi, en tant que chrétien, pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait? On peut ne pas le savoir. Et c'est parfois difficile à accepter de ne pas comprendre pourquoi on vit une épreuve. Pourquoi? Pourquoi moi? C'est la question récurrente. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, parce que Dieu, en tant que Dieu, a un don de préscience, et même s'il souhaite que tout le monde, que tous les êtres humains soient sauvés, il sait très bien que malheureusement tous ne sont pas sauvés, et il sait d'avance quels sont ceux qui vont se convertir, puisqu'il est Dieu et connaît toutes choses. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Donc, les épreuves sont notamment destinées à nous amener petit à petit à être conformes à l'image de son Fils, c'est-à-dire à adopter ses traits de caractère, ceux de Jésus-Christ. Donc, je ne vais pas lire tout le passage, mais un autre verset, verset 31, que tout le monde connaît. Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je me souviens quand j'étais revenu au Mans. J'avais un frère en Christ qui n'arrêtait pas de dire ça, en permanence. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En permanence. Et c'est vrai. Alors, ça n'empêchera pas de, éventuellement, dans le cas d'une persécution, de se faire tuer. Malheureusement, il y a des chrétiens qui se font tuer. Et on pourrait dire, mais dans ce cas-là, où était Dieu? Pourquoi il a permis que ce chrétien se fasse tuer pour son témoignage? Ben justement, peut-être que c'est pour son témoignage. Et on le voit notamment dans la Bible, parfois des massacres de chrétiens ont permis d'essaimer ailleurs, de permettre la naissance de nouvelles églises, de nouvelles communautés chrétiennes, et même de renforcer la foi des chrétiens. On sait qu'à Rome, sous l'Empire romain, les chrétiens étaient persécutés, et pour les Romains, les chrétiens étaient une plague, une peste à se débarrasser, et ils n'y ont pas réussi. Au contraire, leur persécution n'a fait que renforcer l'existence de cette communauté et surtout de la croître. À tel point, alors après, pour des raisons plutôt, on va dire, politiques, Constantin s'est converti au christianisme. On ne sait pas si c'était vraiment parfois, mais on voit bien que c'est le christianisme qui a vaincu la persécution. Mais malheureusement, il y a eu des morts. Donc, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? Voilà. Si on met en doute, comment est-ce possible de douter? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et de plus, il est ressuscité, il est même assis à la droite de Dieu, et il intercède aussi pour nous. Comme on disait tout à l'heure, notre avocat auprès du Seigneur, Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction? Donc les épreuves? Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qui est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, à savoir Jésus-Christ. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, pas même le diable, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que ces paroles soient toujours en nous pour nous aider justement à vaincre tout type d'épreuves et de difficultés que nous pouvons rencontrer. Je vous souhaite un bon dimanche.